Vous écoutez RTL. RTL Soir,
on refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Absolument, on refait le monde jusqu'à 20h avec ce soir Isabelle Saporta, notre chroniqueuse du matin. Bonjour Isabelle.
Bonjour.
Philippe Bailly, conseiller en communication. Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Olivier Mazerolle qui est de retour déjà avec nous tout à l'heure.
Bonsoir.
Et Antonin André, rédacteur en chef à LCI qui est à mes côtés.
Bonsoir.
Bonsoir Antonin. On va évidemment s'arrêter sur la journée de demain depuis tant qu'on en parle. On en est aujourd'hui à nous annoncer 89 000 policiers et gendarmes dans notre pays, 8 000 à Paris où une douzaine de blindés de la gendarmerie seront aussi déployés. On en est aussi à chaque fois maintenant, parce que ça fait quand même le quatrième week-end, à pronostiquer est-ce qu'il va y avoir de la casse, beaucoup, énormément ou pas du tout. Est-ce que vous pronostiquez, Philippe Bailly, quelque chose de grave demain ?
Mais le gouvernement l'a fait pour moi. Ça fait trois jours que le gouvernement répète sur toutes les antennes de voix officieuses ou de voix officielles que les casseurs se sont donné rendez-vous à Paris avec l'intention de tuer. Quand même, les mots sont assez forts. Moyennant quoi, j'imagine que l'objectif était de dire aux gilets jaunes libres, ou en tout cas aux manifestants politiques, ne venez pas à Paris, vous allez en prendre plein la tête. Mais le deuxième message, c'est encore une fois, vers tous ceux qui aiment la baston pour le principe, ou qui se disent qu'il y aura un peu de vol à l'étalage, enfin, et dans les magasins à faire, on leur donne rendez-vous. Le gouvernement leur donne rendez-vous. C'est incroyable,
Isabelle. Incroyable. Vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Puis en plus, je trouve que le président, en disant je parlerai après, scénarise encore plus la chose. C'est-à-dire, je ne veux pas parler maintenant. Enfin, il fait dire à Ferrand, je ne veux pas parler maintenant parce que je ne veux pas mettre de l'huile sur le feu, ce qui est quand même inouï. C'est notre président de la République. Je parlerai après. Donc, on a vraiment l'impression qu'il faut que ce soit balèze pour qu'il ait enfin quelque chose à annoncer. Donc, je trouve que tout est fait au fond pour que ce soit catastrophique demain. Je comprends pas vraiment leur façon de communiquer. T'as le ministre de l'Intérieur qui dit je suis à la fois serein et inquiet. Alors on est un peu dans la limite du en même temps là quand même. J'avoue, je ne les comprends plus pour tout vous dire.
Ces mots à Christophe Castaner dont vous parlez, ces trois dernières semaines ont fait naître un monstre qui a échappé à ses géniteurs.
Ouais, moi ce qui me frappe effectivement au-delà de la communication, c'est que ça renvoie à une forme de fébrilité, je trouve, du pouvoir exécutif qui s'explique mais qui est assez préoccupant justement dans la situation actuelle. C'est-à-dire que ce sont Emmanuel Macron mais ceux qui l'entourent aussi, sont des gens qui ne sont pas très expérimentés en politique, qui n'ont pas le cuir ou l'expérience de gens qui, même en tant qu'élus locaux, ont connu des scènes avec des manifestations agricoles très violentes, des manifestations locales et des parcours politiques jalonnés d'épreuves et de violence, parce que c'est de gestion de situations violentes. Et on sent une forme de fébrilité également dans les personnels des cabinets ministériels. C'est-à-dire que il y a une note qui a circulé, paraît-il, un Valeurs Actuelles, on faisait l'écho sur une note recommandant aux collaborateurs ministériels de ne pas venir à Paris s'ils pouvaient l'éviter. Et poursuivant, nous avons peur pour la continuité, pour la stabilité des institutions, pour les Français, pour nos vies, pour la France. Et donc, si vous voulez, quand vous avez au sommet de l'État des gens qui sont dans cette fébrilité-là, d'abord, c'est un signal envoyé effectivement aux casseurs et à ceux qui souhaitent finalement s'attaquer aux institutions, bien plus que de relayer les revendications des Gilets jaunes. Mais pour les citoyens lambda, je dirais, qui assistent à tout ça, c'est pas très rassurant non plus. Et c'est ça, je trouve, qui est assez inquiétant et très révélateur dans cette crise.
Olivier Mazerolle, on doit craindre le pire ou pas ?
Honnêtement, je ne sais pas. Voilà, j'en sais rien. J'ai horreur de lire dans le bar de café quand je ne sais pas, je préfère dire que je ne sais pas. Parce que tout ce que vous dites est exact, et notamment, ce qui est tout à fait regrettable, c'est que le véritable abandon de la taxe, enfin de la hausse de la taxe, plus exactement, est intervenu après la journée de casse du 1er décembre. Cet abandon serait survenu après la journée du 25 novembre, où les manifestations avaient été, disons, à 95-98% pacifiques. Là, c'était une réponse au mouvement des Gilets jaunes. Là, ça a l'air de dire, oui, finalement, quand vous cassez, quand même, on est obligé de vous écouter, donc on va lâcher un petit quelque chose. Ce qui voudrait dire que demain, s'il y a davantage de casse, ça peut encourager, en tout cas, ceux qui croient que c'est effectivement à travers la casse qu'on obtient quelque chose. Maintenant, les avertissements sont tellement forts. Effectivement, l'histoire des blindés, 12 blindés, une douzaine de blindés dans les rues de la capitale, ça peut quand même dissuader un certain nombre de gilets jaunes authentiques de venir à Paris. Et donc, si demain, il y a des casseurs qui, eux, ont envie de la castagne, comme je disais Philippe tout à l'heure, mais qui sont isolés, à ce moment-là, ça peut provoquer quand même un petit choc dans l'opinion. Se dire, maintenant, il faut peut-être arrêter et
ils
trouver
des
le moyen
quand même,
de s'entendre à quelque chose. De s'entendre sur quelque chose. Après, tout dépendra de la manière dont Emmanuel Macron interviendra. parce que s'il arrive pour parler de façon aussi complexe qu'il l'a fait jusqu'à présent, à moins d'avoir un décodeur à ses côtés, ça ne va pas fonctionner beaucoup.
Philippe, pour prolonger d'un mot ce que disait Olivier à l'instant, sur l'annonce du renoncement à la taxe, non seulement ça a été fait dans un espèce de contre-temps, enfin on a l'impression qu'on a un gouvernement qui a toujours un temps de retard quand même actuellement,
oui,
c'est gênant, mais en plus ça a été fait d'une manière, c'est gribouille. On a d'abord annoncé un moratoire de 6 mois, c'est-à-dire rien. Et puis finalement, certains ministres se sont laissés aller sur le terrain de l'ISF et de son rétablissement possible. Et puis finalement, on dit c'est annulé, mais pour 2019. Donc est-ce qu'on est encore dans l'idée du moratoire ou est-ce qu'on est dans l'annulation ? À un moment, il faut...
Mais c'est même pire que ça, pardon. C'est même pire que ça, parce que Édouard Philippe fait une déclaration solennelle devant l'Assemblée, où il dit « Nous suspendons pour 6 mois la taxe ». Et ensuite, en fonction de l'issue des débats, s'il y a accord, nous la rétablirons lors du projet de loi de finances rectificatif au printemps. Sinon, elle sera abandonnée. Et là, l'Élysée, 2 heures après, dit « Non, oui. Mais il avait mal compris ». On l'a abandonné complètement.
On retombe dans la fébrilité dont vous parliez tout à l'heure.
Il ne pouvait pas le dire carrément.
Non, mais Édouard Philippe ne voulait pas assumer cet abandon.
Il ne voulait pas.
L'Élysée, c'était ce que l'Élysée voulait envoyer comme signal.
Ou alors l'Élysée a oublié de lui dire qu'il fallait le dire.
D'un mot quand même, puisqu'on parle des violences, il ne faudrait pas non plus tout mettre sur le dos du gouvernement. C'est-à-dire qu'il faut aussi rétablir aussi un peu les choses. De la part des Gilets jaunes aussi. Alors il y a effectivement probablement des Black Blocs et des groupes d'extrême droite qui profitent de cette situation. Mais on ne peut pas non plus totalement exonérer le mouvement des Gilets jaunes. Je veux dire que la violence fait aussi un peu partie de leur langage. Hein. On a vu beaucoup de Gilets jaunes sur les ondes appelés à tenir des propos parfois extrêmement violents, appelant à marcher sur l'Élysée, voire même certains à appeler au meurtre. Enfin, moi, j'en ai entendu. Et il y a, si vous voulez, aussi dans ce mouvement, une forme de violence qui, d'ailleurs, depuis le départ, c'est-à-dire que quand vous bloquez des ronds-points, que vous empêchez des gens d'aller travailler, des gens qui sont souvent vos voisins aussi, qui sont aussi une France silencieuse qui subit aussi un peu les choses, il y a aussi une forme de violence en gestation. Et puis, il y a un effet, moi, que je trouve très marquant et qu'on a vu dans les violences aussi, c'est l'effet d'entraînement des groupes, si vous voulez. Mmh. C'est-à-dire qu'on se sent extrêmement puissant parce qu'on tient un rond-point, qu'on est dans un groupe. On ne sait plus tellement quelles sont nos revendications, mais l'effet d'entraînement, le sentiment de puissance et de se dire on peut tout, fait qu'on se croit tout permis, et je trouve que cette fuite en avant, elle est aussi un peu du côté des Gilets jaunes. Il ne faut pas non plus totalement minimiser leurs responsabilités.
Mais ce qu'il serait pu se faire, c'est que le gouvernement arrête le mouvement, en tout cas dans la rue, en engageant les discussions tout de suite, quand il en était encore temps.
On va s'arrêter là-dessus une nouvelle fois dans un instant. La suite de On refait le monde, bien sûr. Restez avec nous.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et ce soir, Antonin André, Philippe Bailly, Isabelle Saporta, Olivier Mazerolle. Je voudrais qu'on s'arrête quelques instants sur le fait quand même qu'on est en train de barricader la capitale de notre pays pour demain et qu'on a de plus en plus de Parisiens qui vont quitter la ville. C'est-à-dire qu'on a entendu tout à l'heure des gens qui ont appelé des hôtels à Versailles en se disant « je quitte Paris, je vais dormir à Versailles ».
Mais on le fait tous, en vrai, dans la vraie vie, on le fait tous. Moi, j'ai des gamines qui devaient aller là et là et je n'y vais pas. Donc, il faut quand même dire les choses, vraiment. C'est vrai qu'on a un peu la trouille. Moi, j'ai un peu la trouille, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu la trouille. Et c'est vrai que tout ça a été un peu flippant. Et c'est vrai que la violence qui est véhiculée... Et là, on est aussi un petit peu coupable. Vous entendez Antonin André dire « oui, ces gilets jaunes sont violents ». Mais nous, les médias, on leur a laissé vraiment les micros ouverts aussi à déblatérer conneries sur conneries, pardonnez-moi d'être grossière, c'est-à-dire vraiment les appels au putsch, les appels au meurtre, les tirades antisémites sur Macron, d'ailleurs qui n'a pas mérité de tirades antisémites, pauvre homme, ni personne ne les mérite d'ailleurs, mais enfin c'était hallucinant, je veux dire, on a laissé une espèce de flot de déversement de haine sans contrôle et sans contre-pouvoir qui sont juste hallucinants, mais pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure Antonin, que j'ai trouvé très intéressant aussi, on a un petit peu construit ça, c'est-à-dire que quand même malgré tout, le gouvernement a tué tous les contre-pouvoirs au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, on voyait, vous savez, ça a commencé par ce mouvement des maires là, qui disait, je ne comprends pas, Emmanuel Macron ne vient pas nous parler, on est les maires, nous on est en face à face avec cette France qui souffre et on ne veut pas nous parler. Voilà, là maintenant on rappelle les maires, parce que comme vous le disiez tout à l'heure très justement, c'est vrai que ce mouvement La République En Marche, c'est presque un mouvement, je ne sais pas ce que, nénuphar, il flotte. On a l'impression qu'il n'a pas de racines, qu'il est là, comme une start-up nation, il flotte et voilà. Donc là, ils se rendent compte que ben, quand même, il aurait peut-être fallu écouter les maires. On se rend compte aussi que ben, on est content de retrouver la CGT, la CFDT, hein, qu'on avait bien humilié. C'était un peu con, peut-être qu'on aurait peut-être dû un peu moins humilier comment dire, Laurent Berger il y a quelques semaines, ça aurait été un petit peu plus simple. Donc je trouve qu'on a réussi finalement un grand coup de menton de la part d'Emmanuel Macron, qui était quand même d'une maladresse. Pour... Rappelez-vous, c'était quoi ? C'était le maître des horloges, et ça vous avez dit tout à l'heure qu'il était à contre-temps. Le maître des horloges, effectivement, jusqu'à l'année dernière, effectivement, il a été à contre-temps tout du long de cette crise. Et je ne dis pas que c'est de sa faute, la violence, mais à force de morgue, à force de, comment dire, d'être péremptoire comme ça, il a attisé une haine de lui. Et ça, moi, je ne sais pas comment on va s'en sortir, en fait, pour tout vous dire.
Philippe Bailly. D'autant plus, pour prolonger sur ce que vous disiez, que, en plus d'avoir une mauvaise gestion du temps et des moments de réaction et des moments d'inflexion, ce qui reste finalement... Le fond de sa politique, il y a, à part l'ISF qui est devenu un
autre point de cristallisation. Ouais.
Pour le reste, finalement, c'est pas tant ça qui est dans les têtes et dans les consciences que des mots. Que les travailleuses illettrées de GAD, mais ça, il n'était pas encore président de la République, que ce pognon de dingue, ça, par contre, il l'était déjà, que les classes laborieuses,
les
avec tout ce que
rien.
Ça porte comme charge symbolique, avec il faut traverser la rue, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, enfin, je veux dire, il les a accumulés avec un... En gros, depuis le déclenchement de l'affaire Benalla, voire même 48 heures auparavant, depuis la descente du bus de l'équipe de France des Champs, qui s'est fait à toute allure parce qu'il fallait regagner
Alors on mélange tout, là.
La réception officielle, et donc avec un sentiment qu'on avait privé les Français de cette célébration. Bien sûr, je mélange tout. Mais à un moment, aujourd'hui, on est bien dans un moment qui mélange tout. Et c'est très impressionniste.
Justement, essayons d'y voir clair.
Le déclencheur, pour moi, c'est les 80
à l'heure.
Ça peut paraître complètement idiot. Ça peut paraître stérile, ce que je dis. Mais les 80 à l'heure, ça a été vécu. Alors là, c'était pas Emmanuel Macron, c'est vraiment Édouard Philippe qui a absolument voulu ça. Emmanuel Macron, finalement, l'a laissé faire. Mais ça a été perçu par beaucoup de personnes qui sont... obligés d'utiliser leur voiture chaque jour comme étant une pompe à fric et exclusivement pour ça. Parce que de toute façon, passer de 90 à 80 à l'heure sur le plan de la sécurité, ça ne change pas grand-chose. Sur le plan de la protection de l'environnement, ça ne change strictement rien. En revanche, pour ce qui est des radars, le fonctionnement est beaucoup plus actif qu'il ne l'était auparavant.
Antonin, il y a deux choses, moi, je crois, dont on parle, mais qu'il faut dissocier et qui sont d'ailleurs les deux réponses auxquelles Emmanuel Macron va devoir s'atteler la semaine prochaine. Il y a la personnalité d'Emmanuel Macron et il y a sa politique. Sa personnalité, il souffre d'un défaut qui sera très difficile à gommer et qui lui vaut un rejet massif, beaucoup plus fort que celui de Nicolas Sarkozy ou de François Hollande, qui est l'arrogance. Ouais. Nicolas Sarkozy, on lui reprochait une forme de brutalité. Il s'adressait parfois aux gens avec brutalité, mais il n'avait pas de mépris de classe. Il parlait avec les ouvriers.
Exactement.
Ou avec les... De la même façon, il pouvait les insulter. Il pouvait d'ailleurs se faire insulter lui-même, mais il n'y avait pas ce côté arrogance. Chez Emmanuel Macron, il y a ce problème-là de l'arrogance qui est très très mal vécu par les gens, qui est vécu comme une humiliation. Ça, c'est le problème de la personne. Le problème politique, c'est que sa politique aujourd'hui est rejetée massivement parce qu'elle ne produit aucun effet concret pour les gens. C'est-à-dire que il a, lui, tenu... il a fait la réforme de la loi travail, il a fait la réforme de la SNCF, mais il s'est aussi mis, d'une certaine façon, dans les mains, ou en tout cas, il a pactisé avec Édouard Philippe et Bercy, qui étaient sur... On tient la ligne des déficits. Et le cocktail des deux n'a produit aucun résultat concret pour les Français. Et aujourd'hui, on est à un carrefour, c'est-à-dire qu'il va devoir résoudre le problème de sa personnalité et de son rapport aux Français d'une part, et son problème politique, c'est-à-dire d'un changement de politique qui ne pourra être assumé et porté que s'il y a un changement de Premier ministre.
On va revenir avec nos autres chroniqueurs dans un instant sur le cas Emmanuel Macron, le président qui devrait s'adresser aux Français en début de semaine prochaine, mais pourquoi ? Dans un instant, on refait le monde la suite.
RTL Soir jusqu'à 20h.
On refait le monde avec Stéphane Carpentier.
Et ce soir, Olivier Mazerolle autour de la table avec Antonin André, Philippe Bailly et Isabelle Saportin. On parlait des humiliations tout à l'heure, celles composées par Emmanuel Macron par rapport aux Français et en particulier actuellement aux Gilets jaunes. Est-ce que le fait qu'il tarde à s'exprimer, ça c'est une humiliation supplémentaire, d'après vous ?
Vous savez, d'abord, souvenez-vous, on a dit Édouard Philippe, il a eu le tort de parler avant les manifestations du 25 novembre, parce que finalement ça n'a servi à rien, il a puisé sa cartouche trop tôt. Alors là, maintenant, si Emmanuel Macron avait pris la parole aujourd'hui ou hier, qu'est-ce que ça aurait donné de plus ? Sauf à arriver avec un ensemble de mesures. De toute manière, que ce soit avant ou après, quand il va prendre la parole, puisqu'il nous annonce qu'il va prendre la parole en début de semaine prochaine. Il ne s'agit pas pour lui d'arriver en disant, écoutez, le débat va durer 3 mois, donc pendant les 3 mois, ceci, cela, etc. Il faut qu'il arrive avec un blast social, c'est-à-dire quelque chose de spectaculaire qui, à partir du 1er janvier, rassure, mais concrètement, concrètement. Alors pour ça, il lui faut effectivement retrouver une marge de manœuvre budgétaire. Ben, il y a plusieurs possibilités, dont une qui est le retarder la mise en œuvre de la réforme du CICE, qui doit être transformée en suppression de charges sociales pour les entreprises. Ben, pourquoi ne pas continuer à fonctionner sur le CICE tel qu'il existe à l'heure actuelle encore l'an prochain, ce qui soulage le budget de 2019
je un mot de réponse de parce plusieurs, que je suis très directement concerné.
De plusieurs milliards d'euros. Ben, vous continuerez à bénéficier du CICE l'an prochain.
Olivier, vous savez comment c'est organisé aujourd'hui ? Ma boîte, donc j'emploie 25 personnes.
Oui.
Je devrais toucher, me dit-on que c'est en train d'adverser, d'ici une semaine, le CICE pour l'année 2017. Oui. Moyennant quoi, ça ne m'a servi à rien en 2017, ça ne m'aura servi à rien en 2018. Il se trouve, comme toutes les PME et pour d'autres raisons, la trésorerie est tendue, donc ça sera toujours un... Voilà, ça sera bienvenu, mais ça sera là encore totalement à contre-temps.
Non, mais je sais bien. Mais...
Donc, si je pense, il y a certainement des choses à faire sur le plan budgétaire. Pour le coup, cette histoire du CICE qui traîne depuis quelques semaines, l'hypothèse que vous citiez, ça me paraît à moi, en tant que chef d'entreprise, patron de PME, réellement une aberration. Ça n'a rien à voir, effectivement, avec l'ISF, qui est... Bref. Et l'autre point, juste, mais pour aller très, 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 très vite, une des difficultés, quand même, de ce gouvernement, et je suis d'accord avec vous sur le fait que quand Macron prendra la parole, il faut qu'il vienne avec des biscuits, avec des mesures, c'est qu'ils ont déjà grillé,
mais
à contre-temps et mal,
mais c'est ce
au moins 2 milliards et demi ou 3
mais
milliards.
Non, mais ce que j'allais vous dire, c'est qu'on fait comme s'ils n'avaient pas parlé, ils n'ont pas arrêté de parler à contre-temps, comme s'ils n'avaient pas proposé des choses. Enfin, on a eu Édouard Philippe ici, nous annonçant la fin des chaudières fuel, sans avoir effectivement même prévenu la filière. Et puis finalement, on voit la convocation de Macron qui nous explique qu'il a faire des trucs extraordinaires pour l'environnement. On se rend compte que c'est des fausses mesures qui n'existent pas, qui ne va pas mettre de pognon dessus et que tout le monde est déconcerté. Donc vous faites comme s'il n'avait jamais parlé. Il n'a pas arrêté de parler, il a juste été inaudible de bout en bout. D'accord, mais donc le blast social.
Donc s'il parle, il faut qu'il.
Mais il parle comme des fichiers Excel, ces gens-là. Vous les avez entendus parler ? Ils parlent comme des fichiers Excel, ils ne sont pas capables d'autre chose.
Mais si vous continuez avec ce raisonnement, que je partage d'ailleurs, je disais tout à l'heure, il faut un décodeur quand il parle. Bon, mais s'il continue comme ça, c'est même pas la peine qu'il prenne la parole.
Je suis pas loin de penser comme vous.
Donc dans ces conditions, je ne sais pas où est la porte de sortie.
Et manifestement, Richard Ferrand est pas loin de penser comme vous aussi, puisqu'il dit il faut pas qu'il mette de l'huile sur le feu. Donc on en est là quand même.
Moi, je pense que dans le timing de la prise de parole de Macron, il fallait pas qu'il prenne la parole maintenant, parce qu'effectivement, c'était plutôt de nature à hystériser les choses dans un climat où la communication cette semaine a été assez désastreuse. Donc rajouter, noyer sa parole dans ce maelstrom, je pense, n'était pas utile. Effectivement, il faut qu'il laisse ce samedi se déroule, on verra comment il se déroule, qu'il en tire les enseignements et qu'ensuite il prenne la parole fortement, effectivement, pour annoncer beaucoup de choses. La difficulté, une fois encore, c'est que vous avez deux problèmes sur la table. Il y a le problème immédiat du pouvoir d'achat, très, très concret, j'allais dire, mais qui ne peut pas être, auquel on ne peut pas répondre par ouvrir les vannes massivement, c'est pas vrai. Donc on peut avoir quelques mesures, peut-être en rognant sur ce qu'on laisse aux entreprises, parce que c'est vrai que les Français ont quand même le sentiment, depuis François Hollande, peu ou prou, que CICE, ISF, loi travail, les entreprises ont quand même été extrêmement soignées, et les Français attendent toujours que ça leur retombe dessus. On se rappelle de Gataz et de ses 1 million d'emplois, on n'a pas vu le début du commencement. Donc si vous voulez, il y a effectivement une forme de sentiment quand même que les patrons ont été extrêmement soignés, et que les Français, que les patrons, au lieu de soigner les salaires et les salariés, ont empoché des dividendes ou ont réinvesti. Pardon, excusez-moi, je suis un peu caricatural, mais... Donc ça, c'est l'aspect pouvoir d'achat.
À peine.
Et l'autre problème auquel il est confronté, et qui là encore est un problème qui coûte extrêmement cher, et que vous n'allez pas résoudre en un an, mais sur 5 ou 10 ans, c'est que la France des Gilets jaunes, cette France-là, c'est une France qui paye des impôts comme nous, simplement... Elle n'a pas le bénéfice des services publics, elle n'a pas les transports. Et ça, là, on est dans une politique d'infrastructure, si vous voulez, qui ne va pas se résoudre en 6 mois. Et c'est ça qui est très compliqué aussi pour Emmanuel Macron. Trouver cette réponse-là en 3 mois, ça va être très compliqué.
Pardon, Antonin, mais pour rebondir quand même sur ce que vous dites, je pense que l'exemple que vous prenez du CICE et de l'ISF, c'est. Et tout ça sous,
et de la loi travail,
même, sous une même ombrelle,
et de la réforme
les patrons.
Chômage.
C'est l'exemple typique ou l'illustration typique du fait qu'en France, on a continuellement, les politiques ont sans cesse un discours autour des PME, on fait officiellement les choses pour les PME et de facto, on ne travaille que pour les grands groupes.
C'est
deux illustrations à ça. celle du CICE.
Bon, je comprends très bien.
À mon avis, un patron de groupe du CAC,
il en
pour
profite,
lui, c'est du bénéfice d'opportunité.
Je comprends.
Et de la façon dont a été faite la réforme de l'ISF.
Je parlais juste du sentiment.
La façon dont a été faite la réforme de l'ISF. Donc, on y a laissé l'immobilier, on en a sorti tout ce qui était détention de part. Et c'est quoi cette détention de part? C'est de la part de SICAV, c'est éventuellement de l'action de groupe coté détenue en direct, oui, etc. On est très très loin du soutien.
Je comprends très bien ce que vous dites, mais facialement, le sentiment qu'ont les gens, si vous voulez, c'est que ce soit que ça fonctionne ou pas, le sentiment qu'ont les gens, c'est qu'on a beaucoup soigné les entreprises et que les salariés, eux, sont restés sur le bord de la route.
Les mêmes entreprises.
Le CICE, il peut y avoir une réforme partielle qui concerne des grands groupes qui, en effet, n'ont pas beaucoup d'utilité avec le CICE, ne pas toucher peut-être des petites entreprises. Il y a une possibilité de trouver une marge de manœuvre, voilà.
Et juste encore un mot sur l'ISF pour le président de la Startup Nation dans les contradictions internes. Effectivement, jusqu'à la réforme
Macron...
Désolé
Stéphane, j'aurais jamais dû le lancer là-dessus.
Vous l'avez chauffé pour la soirée.
Ceux qui investissaient dans des start-up bénéficiaient d'une défiscalisation à hauteur de 50 000 balles versus ceux qui avaient...
Juste,
ça veut dire ça. Simplement qu'aujourd'hui, le financement même des start-up, et je vais m'en arrêter là, est lui-même fragilisé par la façon dont la réforme de l'ISF a été faite.
Philippe Bailly, Isabelle Saporta, Antonin André et Olivier Mazerolle. Dans un instant, la suite et la fin d'On refait le monde. On va parler des lycéens, tout de suite.
RTL soir jusqu'à 20h, on refait le monde.
Stéphane Carpentier.
Allez, on refait le monde encore quelques minutes avec Olivier Mazerolle, Antonin André, Philippe Bailly et Isabelle Saporta. Je voudrais vous entendre, parce qu'on a beaucoup entendu les auditeurs ce midi sur RTL concernant ces images donc des réseaux sociaux qui montraient des gamins, 151 jeunes arrêtés à Mantes-la-Jolie après deux jours de manifestation très très tendue, alignée en rang, genoux à terre, main derrière la nuque, encadrée par des policiers. Est-ce que ça vous choque ou pas?
Écoutez,
excusez-moi,
non mais franchement, parce que là aussi on parlait des médias tout à l'heure qui ont tendance un peu à reprendre aussi les paroles des plus extrémistes, disons. Là, j'ai entendu plusieurs fois sur plusieurs antennes aujourd'hui répéter que Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation, avait été choqué par ces images. D'accord. Et c'est vrai que quand on les voit, ça crée un choc, parce que ça rappelle des images particulièrement détestables. Hein. Bon, mais on oublie de dire que Jean-Michel Blanquer, une fois qu'il a eu dit que les images en tant que telles l'avaient choqué, qu'il fallait replacer tout ça dans un contexte. Hein. Et ça, quand même... Alors, on donne le sentiment qu'un membre du gouvernement dit c'est absolument choquant et inadmissible ce qui s'est passé. Il n'a pas dit ça. Il a dit l'image en tant que telle, effectivement, est choquante. C'est vrai que quand on voit des gamins de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui sont à genoux, les mains menottées derrière le dos, avec entourés de policiers armés, on n'a pas envie de rire. On trouve ça, ça met très mal à l'aise. Maintenant, pourquoi en est-on arrivé à cette situation-là? C'est là aussi où il faut quand même accepter que le contexte, c'est pas les nazis en train de préparer
Mais les gamins, on aurait pu, par exemple, les mettre pour le même objectif de les regrouper, de sécuriser, on les aurait mis assis par terre, les mains sur les genoux. Déjà, l'image était différente. Franchement, il y a eu de la part de ceux qui étaient là, y compris dans la bande-son où on entend un flic dire à un des jeunes...
C'est une énorme connerie.
Regarde tout droit, baisse pas les yeux.
L'image est choquante, je suis d'accord aussi, l'image est choquante, on ne peut que être choqué par cette image. Néanmoins, on ne connaît pas le contexte, c'est vrai. Je retiens aussi qu'aucun gamin n'a été blessé.
Voilà, c'est la seule chose qui compte, au fond.
Que pour des policiers, c'est compliqué d'être face à des lycéens qui sont parfois un peu déchaînés et c'est très compliqué à canaliser. Et moi, je trouve aussi choquant, je vais peut-être être un peu impolitiquement correct, mais je trouve aussi choquant, et là c'est la responsabilité des médias, on l'a dit, mais aussi des politiques, l'exploitation politique de certains politiques. J'ai vu hier sur les réseaux sociaux des politiques de gauche, plus que de droite, je dois dire, s'indigner, relayer l'image, la montrer, la faire circuler. En disant, l'État policier, ces pauvres gamins sont innocents, l'État fasciste, tout ça pour souffler encore sur les bras. Je trouve que dans le contexte actuel, je suis tout aussi choqué de l'utilisation politique qui est faite par une partie de la classe politique de ces images que ces images elles-mêmes.
Isabelle,
moi je suis entièrement d'accord avec Antonin André, et en plus, c'est vrai que là, on se rend compte, là, l'enquête du Monde qui était assez fouillée sur ces questions, on se rend compte qu'il n'y avait pas que des jeunes lycéens, qu'ils avaient été effectivement rejoints par des bandes organisées, qui avaient eu un pavillon de petits vieux qui avaient été pillées, qu'on avait pris des bonbonnes de gaz, qu'on les avait jetées, robinets ouverts, dans des barrières en feu. Enfin, je veux dire, là, il y a un moment aussi, si vous voulez, on peut effectivement faire de l'angélisme. J'ai vu, moi aussi, comme vous, Benoît Hamon s'insurger, dire qu'on était quasiment dans un état fascisant ou presque. Et on peut aussi voir ce à quoi on a à faire face nos policiers.
Il faut faire
attention à ce qu'on dit, et notamment, surtout dans ce contexte
faire
aujourd'hui.
Attention même aux parallèles, aux images. Je veux dire que,
bien sûr.
Ces images rappellent la même Nazi. Non, c'est pas du tout la même chose. On n'est pas non plus Daesh. Je veux dire, ces amalgames-là, dans la bouche
c'est
des politiques, c'est extrêmement.
Mais pardon, je retourne les choses. Effectivement, on tombera d'accord sur le fait que d'instrumentaliser ça de la part de certains politiques, c'est détestable aussi. Et en tout cas, c'est irresponsable aujourd'hui. En revanche, quoi qu'aient fait ces gamins auparavant, il y a un moment, une manière pour les policiers qui sont des en charge d'une mission de maintien de l'ordre, mais respectueux des droits,
etc. Ils ne leur jetaient pas des fleurs. Ils avaient des bonbons.
Une manière de se comporter,
gaz.
Sinon y compris, on commence à légitimer Malik Oussekin. Je veux dire,
ça n'a rien à voir. Mais justement, là, il n'y a pas de blessé, il n'y a pas de mort. C'est justement toute la différence.
Ça n'a rien à voir.
Il ne faut pas dire de choses comme ça.
Ce genre de comparaison. Je veux dire, ces raccourcis-là sont absurdes.
Il y a une différence quand même entre dire d'un côté, les policiers n'ont pas forcément choisi la meilleure attitude. En effet, on les obligeant à s'agenouiller, les mains menottées derrière le dos. Ça, on est d'accord là-dessus.
Mais
on est loin aussi de la mise en accusation de la police qui serait fascisante.
Alors, je dis simplement, si on ne maintient pas, si les autorités, le ministre de l'Intérieur, etc. Non, c'est pas la seule chose.
Pour moi, c'est la seule chose.
On a refait le monde ce soir. Merci à Philippe Baillet. Vous n'êtes pas d'accord avec Isabelle Saporta, avec Antonin André et Olivier Mazerolle. L'actualité, c'est quand vous le souhaitez sur rtl.fr.
Vous écoutez RTL.